This ad is made from 100% recycled commercials. Just like Smartwater's
all new
bottles are made from
100% recycled
plastic.
What's that number again?
100%. Every Smartwater bottle is made using recycled plastic. And because it's still
100%
recyclable, the plastic will be used again.
And again.
Smartwater. Now in a 100% recycled plastic bottle. Label and cap 100% recyclable but not made from recycled plastic. Yet. We're working on it.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
L'After Foot en direct de Strasbourg.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est toujours en direct de Strasbourg et jusqu'à minuit avec vous tous ici au local de la Fédération des supporters. Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là. Tout à l'heure, on parlera de Lyon, tout à l'heure le foot européen avec les drôles de dames. Un mot de Thiago Silva également, petite info RMC du soir. Il pense pouvoir jouer contre Dortmund. On en reparlera tout à l'heure parce qu'apparemment le club n'est pas forcément très chaud. On aura le débat tout à l'heure ensemble. Et je rappelle que toute cette semaine, on vous offre vos places pour PSG Dortmund. Donc le match du mercredi 11 mars, un retour de Ligue des Champions. Pour remporter vos places, c'est très simple. Vous attendez que le jingle suivant tombe. On écoute. Voilà, ça c'est le petit rajout local. Et derrière, vous envoyez foot par SMS au 736.
Et vous priez pour que ce soit pas huis clos. Voilà. Si le mec gagne ses places et derrière il apprend que c'est huis clos, oh la misère.
Oui, voilà, après, RMC est senior, hein, c'est des places pour un autre match, etc. Quoi.
Tu t'engages là.
Oui, enfin, le mec il veut voir PSG Dortmund, ça match retour de Coupe d'Europe.
Il verra le quart de finale derrière, c'est pas grave.
Il verra PSG Atalanta.
Bien sûr. Il s'en fout, je suis désolé.
Alors, messieurs, on a parlé à nombreuses reprises dans l'after du rôle de référent supporter. Pourquoi ? Parce que dans l'after, on parle souvent des tribunes, de la gestion des tribunes, des problèmes d'interdiction de stade, de la gestion des fumigènes. On a reçu Antoine Mordac, le patron de la division de lutte contre le hooliganisme, à plusieurs reprises dans l'after. Didier Quillot en a parlé avec nous il y a quelques semaines également. Et c'est une initiative de la Ligue, il y a maintenant quelques années, de mettre en place dans chaque club de Ligue 1, c'est obligatoire, ce qu'on appelle un référent supporter, donc qui fait le lien entre le club et les groupes de supporters. Et on a la chance d'avoir avec nous Arnaud Zimanski, qui est le référent supporter du Racing Club de Strasbourg. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Arnaud. Je suis très content que ce soit Arnaud parce qu'il est cité en exemple partout. À chaque fois qu'on a les invités, il dit oui, regardez, à Strasbourg, ça se passe très très bien.
C'est un bon ref.
Je sais pas si on dit ref, mais.
On dit un référent supporter.
On dit un référent supporter. Bien. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu es devenu déjà référent supporter parce que tu as un parcours particulier.
Oui, j'ai un parcours particulier, enfin oui et non, tout simplement. À la base, je suis supporter du Racing. J'ai eu le plaisir d'être leader des UB90 pendant plusieurs saisons.
Le groupe Ultra.
Le groupe Ultra, exact. Mmh. J'ai été également le capot de ces UB90. Donc du coup, je connais pas mal le monde des tribunes. Une fois que j'ai pris un petit peu de recul, j'ai toujours gardé des contacts avec le club. Et quand le club était au plus bas, je faisais partie de certains qui ont aidé le club comme ils pouvaient. De là, et avec Romain Giraud, avec François Keller à l'époque, on a gardé nos liens. J'ai fait des choses de manière bénévole pour eux. Et puis un jour est venu le rôle de référent supporter, et il y a justement Romain Giraud, secrétaire général du club, qui m'a demandé ce que j'en pensais et si j'étais éventuellement d'accord pour prendre ce poste-là. Donc avant de dire oui, j'en ai parlé avec justement les copains du groupe avec qui j'ai fait les 400 coups à l'époque. On a échangé, on a regardé pourquoi.
Dans les 400 coups, c'était des trucs...
C'était pacifique.
Correct ?
Oui, très correct. Très, très correct. Ah. Ouais, il y a quelques fumigènes quand même.
Ah, d'accord. T'as un peu craqué, quoi.
Un petit peu, mais, non, mais ça va. Ça s'est quand même globalement bien passé. Et puis après, ce poste est devenu obligatoire par la loi, étant donné que c'est un poste qui est imposé pour tous les clubs... professionnel, que ce soit football, que ce soit du rugby, que ce soit du handball, dès que c'est un club professionnel, ils sont obligés d'avoir un référent supporter. Alors bien évidemment, dans le football, il y a plus de besoins et de demandes que dans d'autres sports, mais c'est devenu obligatoire. Et puis j'ai accepté de faire ce poste-là. Dans un premier temps, c'était plus du bénévolat qu'autre chose, étant donné que j'étais missionné sur les matchs. On s'est rapidement rendu compte que ce travail nécessitait beaucoup de travail justement la semaine, et puis après on est parti sur un contrat et ça s'est fait comme ça.
Alors je te demandais ton parcours parce que il y a des référents supporters qui ne viennent pas des tribunes.
Oui.
En France, dans d'autres clubs, il y a des référents supporters qui viennent parfois de la police. Donc c'est totalement différent. C'est-à-dire que dans l'approche de rapport avec les supporters, les ultras et les autres, le fait que toi tu connaisses ce monde-là et que tu viennes de ce monde-là, ça doit quand même être grandement facilitateur aujourd'hui.
Oui, oui, clairement. Ben, il faut surtout avoir le respect des personnes qui côtoient les tribunes. Et le respect, ben, il ne s'achète pas, il est là avec le temps. Et encore une fois, j'ai la chance d'aller au stade depuis 1989. Donc j'ai vu quelques matchs à la Méno quand même. Et mes interlocuteurs me connaissent. Donc à partir de là, je pense, et c'est ce que je dis d'ailleurs quand j'interviens à la Ligue ou comme la semaine dernière à la Ligue de rugby, je pense que c'est beaucoup plus facile de venir du monde des tribunes plutôt que d'être un commercial du club, un attaché billetterie, un responsable sécurité comme ça arrive dans certains clubs où du coup forcément la limite on la voit rapidement.
Mais si tu comprends pas, je sais pas Daniel, Pierre, ce que vous en pensez, mais tu ces gars-là peuvent pas comprendre le fonctionnement, par exemple, d'un groupe ultra, si t'en viens pas. Enfin, il y a quand même des codes, des trucs.
Non, mais ça facilite forcément les relations, mais ça facilite aussi, j'imagine, ton travail, ou en tout cas, souvent, tu dois te dire, je comprends parce que t'as vécu les choses, quoi.
Oui.
C'est forcément un avantage.
Oui, oui, c'est un avantage parce qu'effectivement, je sais comment fonctionne un groupe de supporters, ultra ou non, mais je sais pas parce que.
Attends, juste parce que j'ai un cas concret. Tu sens que c'est un peu tendu? Tu sais, quand les mecs ils viennent avec les fumigènes, quand il y a des banderoles un peu chaudes et tout, tu arrives à le sentir?
Les fumigènes, difficilement, parce que le fumigène fait partie du monde ultra. Mm. Donc ça fait partie du jeu. Donc dire que je vais le sentir, ça serait mentir. Après, il y a des petits indices. Après, pour les banderoles, tout dépendra du contexte du club en question. Aujourd'hui, à Strasbourg,
ouais, tout va bien, ouais.
On a la chance que tout aille bien. On a la chance d'avoir un président qui est aimé par les supporters. Donc il n'y aura pas de banderole demain direction d'émission, même si on devait perdre contre le PSG et perdre les trois prochains matchs. Donc ça, à mon niveau, c'est plutôt facile de savoir que ça va pas être des banderoles de ce type. Après, par exemple, à Strasbourg, en parlant de banderoles, quand il y a eu ces problèmes d'homophobie dans les stades, je savais qu'à chaque match, il y avait des banderoles, mais je savais aussi, parce que j'avais la confiance des groupes de supporters, que ça n'allait pas être des banderoles insultantes ou quoi que ce soit. Ils ont certes dénoncé le système, notamment l'encadrement des déplacements, mais là, on savait que, mais c'est une question de confiance, on savait que les banderoles seraient dans l'esprit du match et des.
Oui, pour être concret, il n'y a jamais un leader ultra aujourd'hui qui vient, qui dit bon, je te préviens, la banderole aujourd'hui, elle dit ça. Ça se passe pas comme ça.
Ouais, mais
aujourd'hui, on est en contact avec eux. Ouais. On a assez d'excellentes relations pour pouvoir parler avec les leaders ultra pour savoir certaines choses. Cela dit, si le leader ultra ou si les leaders ultra.
Ils veulent te la faire à l'envers?
Ils me le feront pas à l'envers. Ils le feront pas à l'envers au club. C'est pas Arnaud qui vont la faire à l'envers. C'est au club. Et ça, ils le feront pas parce que aujourd'hui, à Strasbourg, avec le contexte actuel, on a d'excellentes relations.
Alors, je trouve que tu as beaucoup d'humilité et je te félicite pour ça parce que si ça se passe bien, c'est probablement parce que tu travailles très bien et tu fais ça bien, mais je pense que tu comprends que parfois le contexte peut aider. Oui. Aujourd'hui, même si un mec vient du milieu ultra et qui connaît tous les rouages dans le contexte stéphanois, le mec il contrôlera rien du tout.
Oui,
il sera débordé, même s'il vient de la tribune, qu'il y a passé autant de temps que toi, ça sera très compliqué. Il y a des contextes, des publics, des villes où probablement c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir déjà des assos qui ont des rivalités entre elles, et donc si le mec est issu d'une association, je me souviens à une époque au PSG, quand tu prenais les mecs qui s'occupaient des départements supporters, si c'était un ancien de Boulogne, tu pouvais être sûr que les mecs d'Auteuil en avaient rien à cirer de ce qu'ils pouvaient dire, et l'inverse c'était vrai. Et aujourd'hui à l'OM, si le mec il est issu d'une assos qui a autant d'histoire qu'une autre, ça va être très compliqué. Le contexte aide. Après, tu fais parfaitement ton job puisque tu es une référence au-delà même de Strasbourg, partout en France. Mais c'est, quoi qu'il en soit, quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place en France et au sein des différents clubs, je trouve. Moi.
Alors, c'est compliqué à mettre en place, effectivement, surtout dans certains clubs. Après, le référent supporter n'est pas là pour régler tous les problèmes. Aujourd'hui, et quand je dis problème, ça peut être toutes les problématiques qui peuvent exister autour d'un match de foot. Cela dit, le référent supporter, il est là pour apaiser, pour rassurer toutes les institutions qui tournent autour du football. Aujourd'hui, je vois, moi, par exemple, avec la DLNH, on a la chance d'avoir un policier référent à Strasbourg. Tous les supporters qui ont eu affaire à ce policier référent, donc surtout pour les supporters visiteurs, tout s'est toujours très bien passé. Et là, on parle, par exemple, de Saint-Etienne. Saint-Etienne, au dernier match à domicile, on a reçu 400 ou 500 ou 600 supporters, je sais plus. En tout cas, tout s'est très bien passé. Il y a eu l'accueil de ma part. Il y a eu l'accueil du référent supporter.
Oui, parce que tu t'occupes aussi de ceux qui visitent, donc des mecs qui arrivent.
Alors, j'essaye de m'occuper, non pas de leur venue, mais en tout cas de montrer qu'à Strasbourg, on est vraiment un club différent et qu'on sait accueillir les supporters. D'autant plus que notre parcage visiteur, bon, bah, il n'est pas spécialement agréable. Mais si au moins notre accueil peut être bon, c'est déjà ça. Donc oui, j'essaie d'être présent dans la mesure du possible parce que bah, mon boulot, c'est aussi de gérer et d'être présent pour nos supporters. Cela dit, bah, pour les supporters de Saint-Étienne, par exemple, qui sont... particulièrement virulents quand ils veulent, hein, dans la contestation, et bien tout s'est très bien passé. Ils sont venus à Strasbourg, on leur a offert un verre de vin chaud, parce que ça aussi on essaie de faire à Strasbourg. Sur le match de Noël, ben, on a offert un vin chaud cette année. Aux supporters d'Amiens, on a offert le sandwich et la boisson.
Un vin chaud, ça passe, parce que dit vin chaud, fais gaffe quand même. Non mais je dis ça.
Oui, mais là
c'est un vin chaud
par personne. Je suis même pas sûr que tout le monde en ait vu les 60 litres. Mais en tout cas voilà, on essaye effectivement d'être un peu différent. Mais oui, il y a certains clubs où forcément c'est beaucoup plus compliqué d'être référent supporter qu'à Strasbourg. C'est une certitude. Mais aujourd'hui, les clubs essayent. Après, c'est aussi une question de volonté, une question de moyens. À Strasbourg, on l'a dit avant et je vais le redire parce que c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, moi, le Racing Club de Strasbourg me permet. De faire parfaitement ma mission, me permet d'intégrer l'INS au ministère des Sports et donc du coup aller régulièrement à Paris pour préparer ces réunions, pour faire ces réunions, pour proposer une circulaire comme celle qui est sortie au mois de novembre. C'est le travail de l'INS qui a été fait en amont, me permet d'intégrer des formations à la Ligue de football professionnel. Donc c'est aussi une question de volonté et à Strasbourg, clairement, la direction du club et donc par son président, ils veulent qu'on aille dans ce sens-là.
Alors tu gères aussi évidemment les déplacements. Donc ça, c'est la phase parfois la plus compliquée parce qu'il y a des stades où bon, bah, c'est plus ou moins bien agencé, où il y a des rivalités avec les ultras locaux. Aujourd'hui, si tu devais faire une photographie de la situation en France, là, tu dirais qu'on est plutôt bien ou qu'il y a vraiment beaucoup de stades à problème ?
Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec nos supporters, on a la chance d'être bien reçus quasiment partout où on va. Mais pour ça, la première raison, c'est parce que nos supporters sont exemplaires là où ils se déplacent. Ça, c'est un. Après, moi, certes, je fais un travail en amont. Certes, il y a les réunions de préfecture où j'assiste, soit par téléphone, soit en y allant directement, comme par exemple à Saint-Étienne. Certes, j'essaie de rassurer tout ce qui est possible, que ce soit la police, que le club chez qui on va aller. Mais après, il faut dire que nos supporters, quand ils se déplacent, ben, ça se passe toujours très bien. Et s'il devait y avoir un petit problème, on le règle en interne, on convoque nos supporters pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que le club a mal fait pour que maintenant il y ait quelque chose qui se passe mal. Et du coup, on avance.
Mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir des supporters chez vous qui, par exemple, le prochain match, il se trouve que c'est samedi contre le PSG, qui filent un rencard à des supporters parisiens pour aller s'expliquer quelque part. Vous n'avez pas ce genre de.
Alors, vous pas, dans un champ.
Vous n'avez pas cette frange-là.
Chez Paul Saïb, chez
vous n'avez pas cette frange-là parce que l'actualité, c'est des choses qui se passent bien ici, mais c'est aussi encore un truc absolument hallucinant qui s'est passé entre Stéphanois et Lyonnais samedi soir. C'est juste une folie, quoi.
À Strasbourg, on a nos associations de supporters. Qui n'offront jamais ça parce que ça les intéresse pas et que c'est pas dans leur mentalité. Après, on a une frange de supporters qui vient au stade, qui aime ce type d'exercice, qui le font de temps en temps. On a des contacts avec eux parce que c'est important d'avoir des contacts avec tout le monde. Cela dit,
donc toi, t'en connais. Oui. Toi, tu sais qu'il y a par exemple un groupe 10, 20, 50, je sais pas combien de personnes. Tu sais que c'est des mecs qui sont susceptibles d'aller au fight.
Bien sûr. Et on est obligé d'avoir un contact avec eux parce que il y a rien de pire que de laisser.
Bah, il pourrait ne pas accepter le contact, déjà, de pas te parler, déjà, il pourrait.
Il pourrait, mais après, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des contacts. Et la pire des choses.
Mais c'est pas des membres des
non.
UB.
Non, c'est pas ni des UB 90, ni du COP Ciel et Blanc, ni de la Fédé.
Ce qu'on appelle les indépendants.
C'est des supporters de type indépendant. Et c'est indépendant avec tout ce qui va avec, hein.
Et c'est pas une association. Ou...
Après, nous.
Ça serait plus embarrassant si c'était dans des associations pour toi. Ben, et pour les associations elles-mêmes.
J'aurai les mêmes contacts avec eux parce que c'est à la base des supporters du Racing. Ouais, on ne peut pas négliger.
Plus difficile à gérer, je pense.
Ça serait peut-être plus difficile à gérer ou pas à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on a pris l'option de prendre contact avec tous les supporters du club. Ils en font partie. C'est des personnes qui sont abonnées du club. Ils ont tout intérêt à avoir un dialogue avec nous parce qu'on peut faciliter certaines choses si besoin. Et puis, on préfère savoir à qui on parle plutôt que d'avoir des inconnus qui font tout et n'importe quoi autour ou dans le stade.
Sur les interdictions, là, en ce moment, il y a un recul parce qu'il y a une volonté ministérielle d'aller un petit peu plus vers les supporters et de voilà, que les préfets soient un peu plus coulants et moins stricts dans leur prise de décision. T'estimes que là, ça va dans le bon sens ou tu te dis quand même, des fois, il y a des interdictions qui tombent et qu'on comprend pas quelle est ta position ?
Il y a eu clairement des interdictions qui étaient aberrantes. Qui étaient aberrantes. Aujourd'hui, depuis la circulaire, moi, je trouve que ça va quand même mieux. Maintenant, on va toujours réussir à me sortir un exemple d'un groupe de supporters qui n'a pas pu se déplacer ici ou là, les supporters stéphanois qui n'ont pas pu aller à Lyon, mais tout ça, quand on s'y intéresse un tout petit peu plus, on a des explications. Aujourd'hui, on sait parfaitement que oui, à Lyon, les supporters de Saint-Etienne auraient pu venir, bien évidemment.
Je veux dire, ils auraient pu venir en sécurité au stade sans problème.
Sans problème. Mais par contre, l'inverse n'aurait pas été le cas. Donc ça me paraît tout à fait logique qu'on ne dise pas oui, supporters de Saint-Etienne, vous pouvez venir, mais par contre, les supporters lyonnais, vous ne pouvez pas.
Parce que la configuration du stade à Lyon, qui est à dehors de la ville, fait que t'arrives, t'es direct dans la tribune et donc c'est sécurisé.
Exactement. Aujourd'hui, quand on va à Lyon, et je vois beaucoup de supporters présents ce soir qui étaient à Lyon, il n'y a rien de plus simple d'aller au parcage visiteur à Lyon. Mais après, aller au parcage visiteur à Saint-Etienne, c'est pas la même musique. Là, c'est un petit peu plus compliqué.
Quand ça se fait pas dans un sens, ça peut pas se faire dans l'autre, obligatoirement.
Moi, ça me paraît compliqué. On a vu avec Metz. Metz, on a accepté 600 supporters. Nous, on était bloqués à 300 malgré la promesse du club de Metz d'être à 600. Ben, ça me paraît compliqué de pas tenir les promesses entre clubs. Donc, du coup, pour éviter tout problème, vaut mieux pas. Imaginez si les supporters lyonnais, on leur dit, on a accepté. Allez, 500 supporters de Saint-Etienne dans votre stade, mais vous, par contre, vous n'allez pas à Saint-Etienne. Les mecs, ils crient au scandale. Ils ont raison.
Sûr. Ouais, donc il y a une réciprocité qui doit s'appliquer. Bon.
Ben, je pense un minimum. Après, en termes de d'organisation générale, je trouve quand même qu'il y a beaucoup moins d'arrêtés. Il y a certes des encadrements, comme nous, par exemple, pour les supporters du Paris Saint-Germain, il y aura un encadrement de 800 supporters à la place de 1000, avec un point de rendez-vous. Ça se fait quand même régulièrement, les points de rendez-vous. Mais les associations sont également demandeurs, ça leur permet de venir avec une escorte. Mais je pense qu'il y a quand même moins d'arrêtés aussi contraignants qu'il y avait encore l'année dernière où parce qu'il y avait la fête du citron du côté de Nice, les supporters ne pouvaient pas aller à Monaco. Enfin,
ah, c'est à Menton la fête du citron.
Oui. Menton, pardon.
C'est vrai qu'en plus, c'est après Monaco, Menton. Donc c'est bizarre. Bon, bref. La grande tribune à Strasbourg, le mur bleu, comme on dit. Avant, c'était dans un petit quart de virage à l'époque de Pierre. Donc là, ça a pris une dimension évidemment beaucoup plus importante, qui est cruciale dans le capital sympathique renvoie le club aussi de partout. Hein. Les gens, quand ils voient Strasbourg, ils parlent assez peu, on va dire, des buts marqués, mais ils parlent de l'ambiance.
Et puis l'influence sur le premier voilà. joueur aussi.
Et donc ça, la gestion de cette tribune là, aujourd'hui, ça occupe un peu tout ton temps finalement. C'est ça la mission principale. Est-ce que c'est compliqué?
Alors oui et non. Non parce que aujourd'hui nos associations s'autogèrent dans la tribune, parce que une tribune, ben ça vit et ça vit avec des leaders qui mettent des règles en place. Et les supporters doivent respecter ces règles. Par exemple, aujourd'hui, dans le mur bleu, il est impensable d'avoir un autre maillot que le Racing Club de Strasbourg.
Tu voudrais qu'il y ait quoi?
On sait jamais. Hein. Parfois, il y a une certaine.
J'avais vu des maillots de Chelsea dans un stade français, par exemple, dans une tribune.
Un maillot de Metz, par exemple.
Si, mais c'est pas admissible.
Voilà. Mais surtout qu'il y a une certaine époque. Il y a une certaine époque où.
Excuse-moi, c'est le premier cas qui me vient. Les Marseillais vont hurler, mais à Marseille, régulièrement, tu peux voir des maillots d'autres clubs dans les tribunes. Hein.
Mais je sais, tu as raison.
Il faut quand même savoir. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a la chance à Strasbourg d'avoir 19 000 abonnés, d'avoir 25 000 personnes régulièrement. Mais on en parlait cet après-midi. Moi, j'ai souvenir d'un Racing Club de Strasbourg, Liverpool, avec 15 000 supporters au stade, dont à peu près 5 000 de Liverpool. Et dans les 10 000 qui restaient, il y avait certainement des mecs qui étaient un petit peu pour tout le monde. Aujourd'hui, à la Méno, il y a une véritable identité au club. C'est une génération Racing qui est là et qui est dans le COP. Donc il y a des règles en place dans le COP que les supporters connaissent, que les supporters respectent. Après, bien évidemment, ce n'est pas une zone de non-droit non plus, hein, le COP. Hein, ce n'est pas une zone de non-droit. Le club, forcément, est attentif à tout ce qui se passe dans le COP. Et s'il y a un problème, la première personne à devoir y aller ou à y aller, c'est moi. C'est moi, avant que la sécurité rentre, avant que la police rentre. On a déjà eu des cas hein, avec des petits soucis. Si on nous informe qu'il y a un supporter à sortir, ils vont nous le donner, on va le sortir tranquillement.
C'est toi qui vas ?
Ben moi, je peux y aller s'il faut calmer les choses, bien sûr. Hein. Bien sûr, mais moi, je ne suis pas là pour dissuader des claques. Hein. Je suis là pour comprendre le problème et si on doit sortir une personne...
Ouais, et ce que veut dire Arnaud, je pense, c'est que ça se passe toujours mieux quand ça se passe comme ça.
Bien sûr.
C'est-à-dire avec un peu de dialogue et avec des gens qui peuvent se comprendre pour que ça se passe en douceur, parce qu'il y a forcément toujours quelques-uns qui peuvent déconner, qu'avec trois stewards qui arrivent et qui t'en mangent et où là, ça peut créer quelque chose de plus important derrière.
Alors attends, la règle, donc pas de maillot d'équipe extérieure, t'as quoi comme petite règle? Ben
dans le COP, les supporters sont là pour chanter, pas pour faire des photos, pas pour faire des snaps, pas pour faire des... Non, ils sont là pour chanter, pour soutenir le Racing. Donc je pense que quand ces règles-là sont déjà comprises et appliquées, je pense que tout le monde est content et on peut passer une bonne soirée dans le COP. Après, c'est sûr que si les gens sont là pour prendre des photos, non, c'est pas des choses qui se font dans le monde des tribunes. Dans le monde des tribunes.
La chasse au footix, en fait. Hein, Daniel ?
J'aime bien.
Voilà, ça te plaît ?
Ouais, c'est bien.
Bravo. On va inviter Daniel, un de ces joueurs.
Daniel, on ira.
On a une situation là presque idyllique, en fait, finalement. C'est le contexte est favorable. Je pense que ce qui peut te rendre facile aussi ton métier, c'est que c'est que des amoureux du Racing qui n'ont pas envie en ce moment de faire quoi que ce soit qui pourrait être répréhensible pour le club. Et ça, c'est la base. Ça devrait être comme ça partout, mais malheureusement, dans des contextes un peu moins favorables, ça marche pas comme ça.
Ouais, le contexte est vraiment, vraiment, vraiment favorable, clairement. Mais après, on en profite aussi, nous, le club, pour mettre les bases saines.
Ah, les bases, bien sûr.
Parce que, bien évidemment, que samedi, on était sixième du championnat avant le match. C'est inespéré. Donc, bien évidemment, qu'on profite de cet instant pour mettre des bonnes choses en place. Parce qu'à un moment donné, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y aura des relations un petit peu plus tendues. Et puis ben là, il faudra qu'on montre que la famille du Racing, que la génération du Racing, c'est pas parce qu'il y a un mauvais résultat ben qu'il faut se déchirer. Et au contraire, on a été fort, on a survécu à presque la mort du club. Donc il y a pas de... Et quand je dis on, c'est les gens dans la salle, c'est les gens qui sont actuellement au club, les salariés, les collègues qui sont là ce soir ou qui sont là au bureau au quotidien, les gens du centre de formation, on a survécu. On a survécu. C'est pas pour demain s'entretuer parce qu'on a des mauvais résultats. Ouais. Au contraire.
Merci beaucoup Arnaud. C'était très intéressant.
Merci.
Bravo. Bravo pour le boulot. Hein. Donc quand vous voyez la tribune là maintenant, vous pensez un petit peu au bureau, au boulot de référent supporter d'Arnaud et des autres dans les autres clubs. Dans quelques instants, parce qu'il n'y a pas que le Racing Club de Strasbourg dans la vie. Hein. Oui, je vous le signale. On va parler un peu des autres quand même. De Lyon, de Paris, il y a de l'actu et puis le foot européen. Avant un grand quiz Racing tout à l'heure avec Julien Cazard qui sera de retour. Donc pour les courageux qui seront encore avec nous tout à l'heure vers 23h35, on pourra vivre ça ensemble. À tout de suite dans l'after.
RMC.
L'after foot en direct de Strasbourg.
Gilles Darbribois.
Daniel Riolo est là, tout comme Pierre Ducrot, bien sûr, en direct du local de la Fédération des supporters du Racing. On est là jusqu'à minuit avec vous. On va parler du PSG de Lyon dans quelques instants. D'ailleurs, il peut y avoir quelques supporters parisiens et lyonnais perdus parmi les supporters du Racing. C'est possible. C'est possible. Vous pourrez prendre la parole tout à l'heure. Mais juste avant, on parlait de Franck Leboeuf, les gars, Daniel, Pierre, il écoutait. Et Franck est toujours sur les bons coups. On a des archives dans l'after.
Donc il n'était pas sur scène.
Il voulait réagir, écoutez.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Merci Franck. C'est pour ça qu'on l'a pas pris en fait.
On la passe souvent dans le Team Ducas celle-là.
Ouais. Bon, le PSG. Alors, info RMC du jour. Thiago Silva veut, enfin, se dit, je peux jouer à Dortmund. Après sa blessure à la cuisse droite, il vise en tout cas une participation. Voilà, blessure le 23 février dernier. On avait annoncé 3 semaines, hein, donc d'absence. Au sein du club, on est plutôt circonspect et on attend de voir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je rappelle qu'il n'a toujours pas repris l'entraînement.
Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense? On n'est pas médecin. Moi, j'en sais rien. S'il est blessé, pas blessé, il dit je suis pas blessé, j'ai envie de rentrer.
Si il est blessé, tu t'es dit c'est une bonne nouvelle. Donc,
Non, mais tu pars du principe que. La question, c'est s'il est remis 3 jours
pas
avant.
Si encore ou pas.
Et qu'il est apte, est-ce qu'il faut le faire jouer? C'est ça la question, en gros, quoi.
De toute façon, mais il est.
Moi, non.
Déjà, les médecins vont décider de savoir s'il peut rejouer ou pas, et il va pas revenir sans avoir joué avant. Donc, comme le match est dans une semaine, un petit peu plus 10 jours, s'il joue pas contre Lyon, s'il joue pas contre Strasbourg samedi, bah il pourra pas jouer contre Dortmund. Ça paraît stop.
Ouais, il y a plusieurs raisons. Moi, je dis non comme ça. J'adore ce joueur. Il y a pas de voilà, c'est pas, faut pas remettre en cause la grande qualité de ce joueur. Sauf que effectivement, physiquement, tu seras pas prêt si tu reprends 3 jours avant. Et deux, c'est quand même un joueur qui a aujourd'hui un défenseur central qui a aujourd'hui une fâcheuse tendance à reculer, et on l'a vu. Moi, j'étais à Amiens, par exemple, pour le Amiens PSG. La mi-temps qu'il joue, il recule en permanence et il oblige tout le monde à reculer. C'est un fait. Contre Dortmund, ça a été pareil. Et aujourd'hui,
ça, on l'a noté.
Sauf qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu vois, qui plus est dans un match comme ça, retour, là où il va falloir que tu sois costaud défensivement, mais pas costaud dans tes 18 mètres. Il va falloir que tu sois un petit peu haut pour que ton bloc équipe puisse mettre une certaine pression.
Et il se peut même qu'à un moment, tu sois devant au score, pourquoi pas. Imaginez que tu mènes 1-0, c'est pas impossible, auquel cas Dortmund doit réagir. Et donc là, tu devras être solide dans tes intentions et ne pas reculer. Et on le sait, enfin, c'est quand même rare qu'un entraîneur qui est connu un joueur parle de ce joueur et de ce club. Je fais référence à l'interview d'Emery.
Unai Emery, ouais.
Ce qu'il dit, c'est quand même très fort. On peut pas effacer cette interview en disant comme certains l'ont fait. Ouais, mais de toute façon, lui, Jérôme l'a fait. Ouais, mais lui, comme c'était un bidon, on fait pas attention à ce qu'il a dit. Non.
Il a eu le tort de pas continuer dans sa.
Tu peux avoir des torts
qu'il avait choisi.
Tu peux avoir des torts, mais il n'empêche que son analyse, elle doit être entendue. Et en plus, son analyse, enfin, elle est quand même suivie de constats qu'on peut tous faire. On l'avait bien vu ce soir-là à Barcelone. On l'a vu à chaque fois qu'il y a des matchs, qu'il y a eu des matchs cruciaux et tout. Oui, il recule. Même dans le fameux match qui reste le seul moment de, on va dire, de gloire en Coupe d'Europe des années récentes. Je fais référence au match à Chelsea, le 2-2. Même là, il avait été fébrile. On oublie qu'il fait cette main complètement ridicule qui donne le péno du 2-1 aux Blues et que là encore,
C'est la carence principale de Thiago Silva, effectivement.
Il a un problème. Mais de toute façon, il flippe. Il faut dire la vérité.
Et dans un match comme celui qu'attend les Parisiens contre Dortmund, je pense qu'il vaut mieux que tu perdes un petit peu dans l'expérience ou dans la relance qui peut être excellente chez Thiago Silva en gagnant un petit peu peut-être de caractère ou de niaque avec un Kimpembe. Avec un voilà, je sais pas comment il jouera, mais des garçons qui vont coller au cul l'attaquant et qui vont pouvoir mettre un peu de caractère là-dedans.
Si tu te qualifies contre Dortmund, étant donné les défaillances historiques du PSG dans ces confrontations-là, dans ces matchs importants-là, franchement, les absents de ce soir-là auront tort,
comme toujours.
Et vous savez à quelle absence je fais référence.
Les absents ont toujours tort.
Non, parfois les absents ont raison. Parce que justement, tu te rends compte que.
Non, mais une remontada.
Oui.
Par exemple.
La différence avec ce match-là, c'est que.
Des absents, si les choix sont faits ce soir-là.
Dès que le contexte est différent.
Au milieu et derrière, sur un match aussi important, il y en a qui devront au moins se poser des questions.
Ce match est important, mais ce match, tu l'abordes pas comme le match retour du Barça, comme le match retour du Real ou comme le match retour de Manchester, où là, c'était un match où tu devais.
Ou t'étais pas qualifié au coup d'envoi.
Mais tu devais te qualifier parce que c'était quasiment écrit, quoi.
Oui, bah, c'est.
Au moins le Barça et Manchester.
Ça ressemble plus au huitième retour contre le Real.
Voilà, là,
t'avais pris 3-1, là, c'est 2-1, mais de toute façon, tu n'as jamais affiché un visage conquérant. Là, encore une fois, tu attends un visage conquérant. Tu n'attends pas un visage où tu dois défendre ton acquis.
On passe à Lyon, parce qu'il faut quand même se poser la question. Hier, on a analysé le derby, tout ça, mais l'embellie lyonnaise est-elle une illusion? Alors, Jean-Michel Aulas a mis hier en valeur, bon, c'est son rôle, la série de victoires, Metz, Juve, Saint-Etienne, en disant, voilà, regardez, les joueurs, ça y est, ils sont là, c'est flamboyant, c'est génial dans le jeu et tout. Sauf qu'il y a un mois, ils étaient au fond du seau, les Lyonnais. Donc, au final, avec 24 heures de recul, là, et le 32-16 est ouvert, supporter lyonnais pour en parler, qu'est-ce que vous en dites? Illusion, faut attendre.
Ou
vraiment reparti.
Non, tu peux noter de façon très prudente le changement lyonnais, c'est-à-dire la régularité dans effectivement les 3-4 dernières prestations. Mais tu peux pas t'enflammer à dire que ça y est, la saison de Lyon, la fin de saison de Lyon va être comme ça et c'est écrit. Tu peux pas parce que Lyon t'a habitué cette saison à beaucoup d'irrégularités. S'ils arrivent à rester réguliers comme ils le font là, comme contre la Juve et contre Saint-Etienne en première période, effectivement, ils ont toutes leurs chances avec après le talent qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont d'être là à l'arrivée pour jouer la deuxième, la troisième place ou la quatrième place. Mais sinon, enfin, moi aujourd'hui je suis incapable de te dire oui Lyon, ça y est, Lyon est lancé et ça va aller jusqu'au bout. Incapable.
D'autant qu'il y a
Lyon, c'est trop risqué. C'est trop risqué.
Lyon n'est pas encore à sa place. De toute façon, Lyon est encore loin en championnat.
N'est pas à sa place si tu regardes les trois derniers matchs. Elle est à sa place si tu prends en compte la saison.
La place de Lyon, c'est le podium.
Factuellement, ils ne sont pas. Ouais. Lyon n'est pas à sa place. Donc Lyon doit encore remonter au classement.
Ah oui, factuellement, d'accord. Pas
en
par rapport
éliminant,
à ce qu'on
en
a
éliminant
vu,
des adversaires qui sont devant et qui vont pas être faciles à sauter. Il est évident qu'un résultat comme celui que tu as fait contre la Juve, ça étale une sensation de puissance, de renouveau, mais finalement il faut faire attention à ce que ce ne soit pas l'illusion auquel faisait allusion Gilbert. Il va falloir que ça se concrétise, parce que gagner 1-0 l'aller, si ça se termine par une élimination, bon, tu garderas ça mais comme un bon souvenir. Bon, très bien, mais qu'est-ce que t'en feras de ce bon souvenir?
Si t'es éliminé mais que tu fais encore un très bon match contre la Juve,
oui,
ça peut te servir quand même. Voilà, dans la fin de saison, non, de la Juve,
il faut que ça serve.
Lyon, ça peut te servir.
Donc il faut que ça serve. Mais si t'as fait Juve et vainqueur, même que t'es éliminé en ayant fait un gros match au retour, que derrière tu n'as pas effectué ta remontée et que t'es hors podium, bah, tout ça n'aura été qu'une petite embellie. Donc ça doit être confirmé parce que t'as pris beaucoup de retard. Pour moi, on en est, c'est même pas qu'on est à la moitié du chemin, c'est qu'on est à une étape sur dix.
On en parlait hier, mais le mois qui arrive pour Lyon est.
Non, mais même la semaine là.
Ah, la semaine.
Paris, mais, Lille, déjà lundi, bon, t'as déjà quand même une idée.
T'as Paris, t'as Lille, t'as la Juve, t'as Rennes, et t'as Paris à nouveau. Enfin, tout joue là. Et je crois que t'as un autre match entre deux, mais t'as Reims peut-être entre deux. Mais ça veut dire que ce mois-là, il est effectivement, ils vont en dire beaucoup. Ça peut être réglé dans un sens comme dans l'autre.
Pierre est avec nous au 32-16, supporter lyonnais. Salut Pierre.
Salut Gilbert, Pierre, Daniel, et puis tous les Strasbourgeois.
Salut.
Bonsoir Pierre.
Salut à tous.
Ah, ici à Strasbourg, tout le monde se souvient d'un coup franc de Liénard contre Puy de Bois.
Et nous, on se rappelle d'un but de Terrier aussi, où on avait gagné 1-0 chez nous. Merci les Strasbourgeois.
Ah ben voilà, il fallait bien qu'ils répondent, hein, c'est normal, t'as raison Pierre. Bon alors, est-ce qu'à ton avis, l'embellie actuelle est une illusion ou tu crois à quelque chose d'un peu plus, on va dire, solide ?
Écoutez, moi je raisonne pas trop comme notre président là, c'est-à-dire qu'il est déjà toujours en train de nous parler d'argent, de Ligue des Champions, de podium. Moi, ce que j'attends de mon club, c'est de l'émotion. Et en ce moment, enfin, il m'en procure. On a attendu longtemps dans la saison pour en avoir. Là, on a un super planning qui nous attend. Passer la Juve, ouais. Enfin, même si on passe la Juve, Daniel, ça changera quoi? On sera en quart de finale, on sera éliminé sûrement en quart, peut-être en demi un jour. De toute façon, on ne gagnera pas celui des champions.
Oui, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, ça fait des bons souvenirs sur lesquels, évidemment, Aulas communiquera en mettant en avant la performance. Le tout est de savoir si Lyon est un club qui a besoin de faux semblants, de grande communication ou de résultats, d'ambition et de résultats absolument probants. C'est tout ce que je dénonce depuis des années, moi. C'est le concret et l'abstrait d'une communication qui est là pour effacer ce qui n'est pas à la hauteur de ce que doit être ce club. C'est le conflit permanent que moi j'ai avec votre président. C'est que Lyon remplace ou cherche à diminuer ses contre-performances par une communication exubérante en disant regardez ce qu'on a fait depuis toutes ces années, regardez depuis 10 ans, regardez ceci, regardez cela. Et alors que moi j'ai toujours le sentiment que Lyon n'est pas là où il devrait être.
Bah, c'est pour ça que je te dis, moi enfin j'ai de l'émotion. Je pense qu'on est le seul club français aujourd'hui à avoir plein d'émotions comme ça, parce que même Marseille est deuxième, mais franchement je pense pas que les supporters vibrent cette année avec une deuxième place à 15 points de Paris. Moi enfin je vibre parce qu'on bat la Juve.
Après tout est une affaire de contexte. L'OM vu leur saison dernière,
de là où ils reviennent,
cette année elle est belle pour eux, il faut le dire ça.
C'est terminé en Ligue 2, Lucas Vinoy.
Oui, en effet, victoire de Lens 2-0, 2 buts de Sotoka à la 37e et à la 47e. Lens qui remonte à la deuxième place du classement à 4 points de Lorient. Le PFC qui reste 17e avec 2 points d'avance sur le 18e et le 19e, Niort et Le Mans.
Merci Lucas et bonne soirée. Pierre, tu voulais répondre,
oui,
Daniel,
donc,
tu sais plus ce qui t'a fait.
Non,
je me disais à Pierre Ducrot, mais vas-y Pierre.
Pour répondre à Daniel, c'est vrai que moi, encore une fois, je suis vraiment dans la prise de plaisir. Hier, on a vu un beau derby, enfin, de côté lyonnais en tout cas, avec une belle équipe, avec une possession de balle, avec des occasions. On a vu un super match contre la Juve. Moi, enfin, je vois des bons moments. On a la finale de la Coupe de Ligue, on va monter à Paris. Si on se fait éliminer dans 2 jours, ce sera contre le PSG, ce sera pas ridicule. Et on a encore notre destin en main en championnat contre Rennes et Lille pour effacer cette saison catastrophique.
Mais là où tu as raison, c'est que tu peux espérer plein de choses géniales. Et ça, c'est déjà fantastique d'être encore en course dans des choses, dans des combats. Ça, là-dessus,
ouais,
t'as raison.
Et puis, de façon, tout est ouvert. Sans mauvais jeu de mots.
Ouais,
financièrement,
vrai,
on a du pognon, on a plein de joueurs dans l'effectif, on est dans toutes les compétitions. Si c'est dans les cinquièmes, voilà, s'il en fait tout un miracle, mais si les cinquièmes, on vend Traoré 35 millions d'euros et puis la participation à Ligue des Champions, elle est finie, quoi. Et moi, je pense que c'est, il faut arrêter de parler toujours d'argent, de club, de vente, d'acheter. L'argent, on en a, le stade, il est payé, on construit d'autres choses autour du stade, on a plein de joueurs dans l'effectif, on a plein de jeunes dans le centre de formation. Moi, ce que je veux, c'est une équipe de foot. Et c'est pour la première fois de l'année depuis 5-6 ans qu'on parle enfin d'une équipe de foot qui est cohérente, qui se bat, qui nous donne du jeu. Même tout le monde, soit à la radio, à la télé, tout le monde est positif en ce moment avec Lyon. Et ça fait enfin kiffer dans toutes les compétitions. Et qu'est-ce que j'attends,
Comme quoi, c'est pas compliqué. Tous les emballements, la communication et tout ce qui peut être fait. Alors que Lyon, vous voulez ce que veulent beaucoup de gens.
Et un détail, Daniel, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, enfin, dans l'effectif, il y a de la concurrence. T'as Terrier, Traoré hier, ils sont déchirés parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient leur place. Ils ont vu que leur place a été perdue dans l'équipe. Au milieu de terrain, Thiago Mendes, enfin, il est écarté. J'espère que ce mec-là, s'il a la bonne mentalité, pour se dire, attendez, Touzard, il va partir dans peu de temps. Va falloir que je m'accroche pour pouvoir gagner ma place à côté de Guimarães. C'est ce que je sens dans l'équipe, quoi. Dubois, il revient, il prend sa place de titulaire. Je sens que
Touzard est devenu bon à côté de Guimarães. Il faut peut-être voir avec Thiago Mendes, hein. Peut-être qu'il peut retrouver son niveau de jeu.
C'est pour ça que je te dis ça, Daniel, quoi. J'espère qu'il aura
Touzard n'a jamais été mauvais.
Il s'est redressé, quoi.
Ouais, mais là, il est particulièrement au-dessus. Hein.
Ouais, mais parce qu'il est dans un rôle différent où il y a une partie de son travail qui est plus visible.
Et ça pourrait être la même chose pour Thiago Mendes.
Mais le changement, et moi c'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas voulu vous couper, mais de façon très pragmatique, pour moi ce qui change tout à l'OL en ce moment, c'est effectivement Guimarães qui est arrivé. Alors certes, il est lui très bon à son poste de milieu défensif, mais c'est surtout qu'il rend très bon les défenseurs derrière lui, qui était un gros souci à l'OL. D'un seul coup, t'as une défense qui est un peu mieux protégée par son milieu de terrain. Et il rend aussi très bon les deux milieux qui jouent avec lui. Alors là, Aouar et Touzard en ce moment, qui d'un seul coup, comme par hasard, peuvent se concentrer un tout petit peu plus, ou en tout cas, sont dans une position où ils sont un tout petit peu plus mis en valeur avec le ballon. Et ça change beaucoup de choses. Et ça dépend quel joueur.
Gagnez maintenant
vos places pour le 8e de finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain Dortmund sur RMC.
Envoyez foot par SMS au 732-16.
Ah non, Pierre, pour que tu gagnes, faut que t'envoies foot par SMS.
Ah merde,
t'as compris le mécanique.
C'était pour l'auditeur, c'est dommage.
Ah, mais t'es lyonnais, toi.
Ben oui, mais t'inquiète, le 8e de finale, vous me le paierez en quart de finale pour le Lyon PSG, ce sera mieux.
Ah, tu vois, Lyon PSG en quart de finale, toi.
Bon, ça serait pas beau. Bah
là, ce serait.
Ouais, ce serait moche.
Et rappelons, en 2010, le Lyon Bordeaux, il était bien.
Hein. Ouais, mais non.
Ouais, c'est pour ça qu'il
était bien. Non, quitte à avoir des équipes françaises, non, je veux pas casser.
Non, on se retrouvera en finale.
Évidemment. Bah oui. D'ailleurs, elles peuvent? Non.
Si, elles peuvent.
Si, en quart, tu peux.
Ouais, en quart, tu peux.
En quart,
ouais.
Tu peux.
Si, à partir des quarts, on peut, ouais. On peut, ouais.
Ouais. Bon, en tout cas, vous avez 20 minutes pour envoyer foot par SMS au 732-16 pour gagner vos places.
20 Pierre. Minutes, bah, si tu le fais pas dans les 2 minutes, t'as aucune chance. Ça sert à quoi de dire dans les 20
minutes? Non, c'est un tirage au sort après.
Ah, pardon.
Okay. Merci, Pierre.
Merci à tous. Ciao, bonne Pierre. Soirée.
Salut, bonne soirée. Dans quelques instants, les drôles de l'âme, le foot européen. On a Fred Hermel et Simone Renvera avec nous ce soir. Le foot espagnol, le foot italien. On fera le foot allemand et le foot anglais demain, hein, puisqu'on a le temps. Demain, on a un after de 3h de 21h à minuit.
Polo est pas là avec ses amis strasbourgeois?
Bah non, Polo sera là demain. Parce qu'il prépare un gros dossier là sur ce qui se passe à Hoffenheim et dans les stades allemands.
Je pense que ça l'aurait intéressé de parler aux strasbourgeois.
Je suis toujours très intéressé par Strasbourg, Polo.
Il aime bien ses annexions ou.
Attention à ce que tu dis, toi. La soirée n'est pas terminée.
Mais moi, je répète ce qu'il dit, lui. Ça me fait marrer. C'est pas...
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC.
L'after foot en direct de Strasbourg.
Gilles Darbribois.
Et oui, en direct de Strasbourg, toujours avec vous les supporters du Racing, ici au local de la Fédération des supporters. Jusqu'à minuit, l'after est là. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec nos drôles de dames. Tout de suite, jingle. On a choisi de diviser notre page foot européenne en deux. Foot européen d'ailleurs, en deux. Demain soir, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce soir, l'Espagne et l'Italie. Fred Hermel est avec nous depuis Madrid. Salut Fredo.
On a pris les deux plus beaux pour ce soir. Hola chicos et salut les Strasbourgeois.
Salut Fredo.
Et Simone Renvera, je sais pas où il est actuellement.
Il est en quarantaine. Simone,
il est en
enfermé chez lui. Il est confiné.
Confinement.
Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Non, je suis à la maison pour un soir, mais après je vais bouger, il y a beaucoup de choses à faire.
Mais t'as plus le droit de revenir en France en tout cas.
Bah écoute, la vérité c'est que peut-être j'ai pas l'envie de venir en France, vu les dernières stats qui font peur.
Ça, mais bon, là c'est parce qu'on ton envie, en l'occurrence, on s'en fout un peu, c'est est-ce que t'as le droit ou pas, je suis pas sûr que tu aies le droit de venir.
Moi ce qui m'inquiète c'est que...
La question est-ce que les Français auront le droit de venir en Italie si ça continue comme ça? Attention.
Bah Jean-Michel Aulas a commencé à en parler, je te signale, ça t'a pas échappé.
Ben, ça m'a pas échappé, mais Jean-Michel Aulas, on a échappé les statistiques des Français positifs au coronavirus en rapport aux Italiens. Donc malheureusement, avant de parler, il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays avant de parler des autres. Mais bon.
Ah, ça, Jean-Michel Aulas, parfois, parle un petit peu avant de savoir. Oui, ça peut arriver.
Bon, ça n'a pas fait réagir en Italie. Les gars de la Juve, ils n'ont pas dit, dites donc, t'es qui, toi, pour l'ouvrir?
Alors, en ces moments, je pense que la Juve a plein de cas à gérer, des questions entre les reports de match du championnat, la Coupe d'Italie, dont n'est pas encore officiel si mercredi se joue à huis clos ou pas, que l'histoire de la Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est un peu loin, sachant que c'est dans 2 semaines. Donc, c'est long.
Bon, faisons un petit point là, parce qu'effectivement, tu vas te retrouver avec un championnat un peu tronqué, avec des reports. Qu'est-ce qu'on dit en Italie ? On se oriente plus vers des reports que vers des matchs à huis clos. Quelle est la tendance là ?
Alors, aujourd'hui, il y a eu un conseil de la Ligue exceptionnel, on peut dire, pour trouver des solutions. Ça devrait être officialisé, le fait que les 6 matchs reportés ce week-end vont être joués les week-ends prochains. C'est-à-dire, la journée de la semaine prochaine va être décalée d'une semaine. On rattrape un peu ces retards du calendrier avec les 6 matchs joués, dont c'est Juve-Inter qui est un programme, en théorie, lundi 9 mars à 20h45 avec les stades ouverts, et comme ça il n'y aura pas trop de
et donc problèmes. La semaine prochaine tout ira mieux. Tu veux dire que la semaine prochaine donc on jouera et tout ira mieux.
Il y a un arrêt pour les manifestations sportives qui durent jusqu'à dimanche 8, donc c'est pour ça que dans certaines régions, et c'est pour ça qu'il y aura 3 matchs, 4 matchs lundi 9, 2 matchs entre vendredi et samedi pour récupérer les choses. Mais la situation est vraiment catastrophique et chaotique. Pour vous dire une chose, j'habite à Turin, vous savez, pour toute la semaine, ici à Turin, les écoles sont fermées. Donc, on ne peut pas envoyer.
Mais ça, il y a quand même un truc. Bon, il y a certains politiques d'ailleurs qui se sont exprimés en France en disant oui, mais alors attendez, on ferme des écoles, on interdit un spi-marathon, des événements. Par contre, le foot, on peut y aller. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible.
Oui, ou tu peux prendre le métro avec tout le monde aussi, par exemple.
Voilà, donc il y a des fois
en théorie, mercredi, on joue Juventus Milan avec les stades ouverts, sauf interdiction pour les originaires de la Lombardie, du Veneto, de l'Emilia-Romagne et d'autres provinces où il y a des cas de coronavirus. Mais les mercredis, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, mais peuvent aller au stade. Bon, écoute, c'est un peu.
C'est vrai que c'est aberrant.
Non, mais c'est d'une incohérence. Étrange tout pour ça, moi.
Dis-moi, Fred, en Espagne, pour l'instant, tout va bien, toi?
Ouais, tout va bien. Pourtant, il y a 120 cas.
T'as un bateau à Tenerife qui est hacké quand même.
Ouais, ouais, mais je veux dire qu'ils descendent après, les mecs.
Ils sont en D2, Fred, ils s'en foutent, ils sont en D2, Tenerife.
Puis Tenerife, c'est hyper loin, en plus, d'ici. C'est 2h30 d'avion de Madrid. Hein.
Ah ouais.
Mais il y a 120 cas en Espagne.
Enfin, toute l'Espagne, ce n'est pas Madrid, Fred.
Bah, un peu quand même.
Bah, non, enfin, excuse-moi, les Canaries, c'est quand même 2h30. Mais tu sais que dans le occidental, aller jouer à Tenerife ou à Las Palmas, je crois que c'est le plus long déplacement dans un championnat d'Europe occidentale. Donc c'est pas rien, mais c'est bien l'Espagne, on est d'accord, mais enfin c'est quand même loin, enfin c'est, mais bon, non, ici à 120 cas au niveau national en Espagne, mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment de psychose. Et puis bien sûr, on a Javier Tebas avait fait une conférence de presse l'autre jour de présentation du Classico, et à aucun moment l'idée de reporter le Classico, de le faire jouer à huis clos hier soir n'avait été évoquée, parce que pour l'instant il y a pas beaucoup de cas, et en tout cas il n'y a pas de psychose, quoi. Il y a un journaliste assez connu, qui est d'ailleurs un de mes copains à Valence, qui lui a été contaminé lors du match Atalanta-Valence, mon cher Simonet. Mais bon, il va très bien, il a passé quelques jours à l'hôpital, mais là tout va bien, je lui ai parlé hier. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de psychose en Espagne, donc pour l'instant le foot n'est pas du tout touché par ça.
Il y a eu 3 cas qui sont liés directement au match Atalanta-Valence. Oui, c'est.
Tu étais, Simonet ?
Question sur le stade. Il y a 3 cas de coronavirus.
Mais est-ce que toi, tu étais à ce match ?
Non, j'étais à Paris. J'étais à Paris ce soir-là, donc.
Ouais, comme quoi, ça risque
bien sûr. Je connais.
C'est le soir où il a fait
Poltrone
et Sofa.
Ah oui.
Mais bien sûr.
Ah bah oui, il avait l'air en forme, bah oui. Ouais. Et tu sais, Simonet, que la semaine prochaine, on est ensemble à Barcelone, hein.
Ouais, voilà. Et
on se fait la bise quand même ou pas?
Est-ce que je vais croiser des journalistes qui étaient dans ces matchs Atalanta-Valence avant?
Et non, non, parce que c'est très séparé.
Ah, bah attends. C'est Simonet, donc quand il va en Espagne, il se dit je veux pas que je croise des mecs qui étaient en Italie, en fait. C'est un peu compliqué,
t'as dit. Bon. Non, j'ai dit avant, je dois aller dans les stades mercredi, je dois aller dans les stades lundi prochain. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon,
non, pendant ce temps-là, la
des chiffres. Je vous dis en seulement les chiffres.
La Lazio est devant, alors. Vas-y, enchaîne.
Oui, je termine seulement avec les chiffres, parce qu'on a parlé des chiffres. En Italie, il y a beaucoup de cas, 1800, c'est vrai. Mais il y a eu 23 300 tests effectués. C'est-à-dire qu'il y a les 7% des personnes qui ont été positives aux tests. C'est pour ça que j'ai dit, attention, les chiffres sont énormes, mais 23 300 cas, si on pense qu'en France, il y a 1126 tests qui ont été effectués. Sur les sites de santé publique, on peut trouver ça. Et 178 ou 190 sont devenus ce soir positifs. C'est énorme. En Italie, on a fait 23 300 tests du coronavirus. C'est un chiffre qu'il n'y a pas égal dans tous les pays d'Europe.
Bon, parlons de la Lazio maintenant. Si
tu le gars avec
si
le
tu veux bien.
Il non, veut parler de la Lazio.
C'est pas une émission de santé, ça vous a pas échappé. Même s'il y a des conséquences dans le foot. La Lazio qui passe devant, Simone.
La Lazio qui passe devant. Déjà, il faut dire que le calendrier a aidé l'équipe de Simone Inzaghi parce qu'ils ont actuellement deux matchs en plus en rapport à l'Inter, un en plus en rapport à la Juve. Et quand je parle de calendrier qui va aider, la Lazio, on sait très bien qu'il est sorti des coupes très tôt, de la Coupe d'Italie, de la Coupe de l'Europa League. Aujourd'hui, la Lazio, d'ici à la fin de la saison, doit jouer 5 matchs en moins en rapport à l'Inter. Donc, à niveau du calendrier, déjà, c'est beaucoup. 3 à moins en rapport à la Juve. Et si la Juve, on verra, continue dans sa course en Europe et l'Inter aussi, la quantité de matchs de ces deux autres rivales pour les titres va augmenter. Chose qui, pour moi, fait dire que la Lazio n'est pas seulement une rivale de la Juve, mais est-ce que la Juve est une rivale de la Lazio aujourd'hui? Parce que quand même, c'est très important dans cette fin de saison, l'équilibre qu'il peut y avoir entre les matchs joués et la fatigue de certains joueurs. Et la Lazio aujourd'hui vit un moment pour moi les plus compliqués depuis le début de la saison au niveau des blessures. C'est-à-dire, il y a 3 joueurs qui sont très importants, comme le capitaine Lulic à gauche, Maruzic qui est une alternative à droite, et les défenseurs centrales Acerbi qui sont blessés. Mais même avec les blessures, la Lazio continue à enchaîner, 22 matchs consécutifs sans défaite. Cette première place qui arrive pour la première fois dans une phase retour depuis 2000, c'est-à-dire ça fait 20 ans que la Lazio n'était plus première en phase retour. Et
en 2000, c'est l'année du titre.
C'était la journée du titre, parce que la Lazio va passer devant la Juve à la dernière journée. 3-0 face à la Regina, victoire de la Lazio sur ces matchs-là, quand la Juve perdait à Pérouse sous les déluges.
Ah, sous le déluge, là. Oh là là.
Incroyable.
C'était terrible, ça.
Et les liens entre ces deux Lazio, c'est bien sûr Simone Inzaghi qui jouait dans cette Lazio. Incroyable, hein, c'est une Lazio. Vous vous souvenez là, peut-être, mais il y avait des Mihajlovic, Veron, Stankovic, Nedved.
Ah oui, c'était une énorme équipe.
C'était une Lazio extraordinaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une Lazio extraordinaire. Sûrement, c'est une belle équipe avec des individualités importantes comme Luis Alberto. 12 passes décisives cette saison, déjà en championnat. 12 passes décisives, c'est pas rien. Thierry Mobile, on sait très bien quel buterait. Milinkovic-Savic, qui pour moi ça reste un des meilleurs milieux de la Serie A.
Et à la Roma, on dit quoi là pendant ce temps-là?
La Roma,
on espère
déjà,
que la Lazio ne sera pas championne.
Bah oui, oui, la Lazio.
Non, parce que c'est quand même rare qu'il soit devant finalement. Les dernières années.
Bah, c'est très rare dans ces dernières années, mais souvenez pas que avec Simone Inzaghi, la Lazio cette dernière saison a gagné une Coupe d'Italie et 2 Supercoupes. La seule équipe qui a interrompu la maîtrise totale, la domination totale de la Juve, c'est la Lazio avec 3 trophées. Et Simone Inzaghi avait déjà gagné des trophées en tant qu'entraîneur quand entraîné des U19, 2 Coupes d'Italie, 1 Supercoupe là aussi. Ça continue à montrer d'être une très bonne entraîneur, même si son frère commence à faire bien. Vous savez qu'en ce moment, Filippo Inzaghi est en tête au classement de la Serie B italienne avec Benevento. Donc c'est la première fois dans l'histoire.
Ah oui, les deux Inzaghi frères en tête de deux divisions, c'est étonnant.
Voilà. Et Filippo Inzaghi a 20 points d'avance.
Et pour une fois, Filippo Inzaghi n'est pas hors jeu.
Non, n'est pas hors jeu, mais il est tellement devant. Imaginez, à 20 points d'avance sur la troisième. Donc 20 points d'avance sur la promotion directe. Il est avec un pied et demi, voire plus en Serie A. Mais voilà, c'est les deux Inzaghi sont les rois des championnats italiens aujourd'hui.
Dans quelques instants, tu nous parleras de l'Atalanta qui continue d'empiler les buts. Fred nous parlera du Classico 24 ans plus tard. Et attention, parce que Julien Cazard, qui est partout, était dans les coulisses du stade hier à Madrid. Eh oui, document exclusif une nouvelle fois. Julien nous rejoint dans quelques instants ici en direct de Strasbourg. Bien sûr, on est là jusqu'à midi avec vous. Le quiz également à suivre avec Julien. A tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot en direct de Strasbourg.
This ad is made from 100% recycled commercials. Just like Smartwater's
all new
bottles are made from
100% recycled
plastic.
What's that number again?
100%. Every Smartwater bottle is made using recycled plastic, and because it's still
100%
recyclable, the plastic will be used again
and again.
Smartwater, now in a 100% recycled plastic bottle. Label and cap 100% recyclable but not made from recycled plastic. Yet. We're working on it.